Bon, donc, Laurent René vient de me dire que chaque bête appartenait à Chevilleux, Chevillard.
Chevillard. Et ils avaient leur propre initiale.
Et donc,
lorsque. Les bêtes étaient marquées au ciseau.
C'est ça.
Donc, par supposition, il y avait M. Cadet, c'était KD.
Ça, voilà.
Donc sur le cuir c'était marqué l'initiale et nous on remettait l'initiale sur la bête.
Ça, d'accord.
Et le mur, et il y avait une boucle sanitaire et la boucle sanitaire restait sur l'oreille dans la salle de ressuyage.
Donc il y avait un vétérinaire. Ah, avait,
voilà, à la fin de la chaîne, il y avait un service vétérinaire.
Mais il logeait d'ailleurs à l'abattoir, le vétérinaire.
Germain Nailly a logé, la monsieur Lannoy aussi, ils logeaient tous les deux. Il y avait un service vétérinaire qui logeait là en permanence.
Alors lorsque que les bêtes étaient découpées et tout, il fallait donc vérifier la qualité.
Il vérifiait tout, tout ce qui était la qualité de la viande, la qualité des abats, le foie, tout ça, c'est eux qui vérifient tout, c'était bon, pas bon.
Voilà. Il arrivait des fois que
et à la fin, eux, ils mettaient leur cachet.
Voilà, c'est ça, les cachets.
Les cachets, ils mettaient leur cachet, comme quoi la bête était apte à être consommée.
Et aussi, il y avait peut-être des catégories au niveau de qualité, peut-être
Il y a eu avant des catégories, mais plus à la chaîne.
De la chaîne, c'est
avant, ça. Il y avait, moi j'ai connu pendant les concours, il y avait le label, il y avait tout ça, le label rouge, mais bon, après, ça a disparu, ça.
C'est ça, oui.
Après, chaque boucher reconnaît la viande ou pas la viande.
C'est ça, d'accord, ouais. Parce qu'il y en a moins de bouchers maintenant.
Oui, il n'y a presque plus.
C'est ça, donc, c'est ce qu'on disait avec Mme Aubiard, c'est qu'en fait, les abattoirs ont été dynamités, si on veut dire, par le fait des grandes surfaces, et aussi de la gestion hygiène, en fait, peut-être aussi.
Non, parce qu'on était en normes d'hygiène, nous.
C'est ça, d'accord, oui.
Nous, on était en normes d'hygiène, donc c'est pas une question d'hygiène, c'est une question de grande surface, qu'eux, ils avaient leur propre abattoir et leur propre service.
Et moi, je dis que ça vient de l'Europe. L'Europe, c'est l'Europe qui a organisé ça, de façon à ce que tel pays fasse ça,
Je te mets des rôles, quoi.
Ah oui.
Ça, c'est le gouvernement, hein.
Je m'excuse, hein. Ça te dérange ? Je dis-tu.
Ah non, vous en prie.
Non, mais parce que je suis...
Ça me gêne absolument pas.
Non, est-ce que vous l'avez ressenti, vous, petit à petit, lorsque vous étiez...
Ah bien sûr.
Vous voyez que ça allait partir ?
Dès que les grandes surfaces se sont installées, on a vu au fur et à mesure que ça diminuait chez nous. Hein.
Oui, mais alors, les tueurs, est-ce qu'ils étaient repris, réquisitionnés par les grandes surfaces pour aller dans les privés ?
Ah non, absolument pas. Ça n'avait rien à voir.
Alors, comment ils faisaient ?
Ils sont dû se débrouiller.
Un tueur, c'était un tueur. Après, il y avait un boucher, c'était un boucher, qui n'était pas le même service, c'était pas le même...
Non, mais ceux qui partaient dans les abattoirs privés, comme chez Leclerc ou chez Carrefour ou tous les autres,
non.
Ils ne débauchaient pas chez vous ?
Non.
Alors, qu'est-ce que donnent les jeunes, alors ?
Les jeunes sont partout sur là.
Ils se sont débrouillés.
C'est ça, voilà. Donc, c'est un métier.
Il y en a quand même qui ont réussi à se placer, hein.
Quelques-uns, il y a rentré...
Joël Brouard, qu'est-ce qu'il faisait, lui ?
Joël, à la fin de l'abattoir, il est parti travailler chez un entreprise de bâtiment.
Ouais. Qui c'est qui a...
Après, Bruno Darzin, lui, a réussi à s'intégrer dans Auchan. Là, il y a que je connais qui est parti dans la viande à Auchan.
Et celui qui était au quai Catinol, qui est assez gros, comment il s'appelait déjà
Jean-Pierre Macaire.
Ah non, pas Jean-Pierre, non. Jean-Pierre, il habitait le long du chemin de fer. Oui. C'était le cousin Francis.
Oui, il travaillait pour des chevillères.
Oui, lui, mais il n'a jamais travaillé à la chaîne, Jean-Pierre.
Ah non, je travaille à la chaîne.
Mais celui qui était au quai Catinol, un assez fort...
Ah, Henri Carpentier.
Carpentier, oui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Lui, il est parti à la retraite, parce que quand on a fermé en fin 92-93, il est parti au chômage quelques années, après il a remis à la retraite.
Ouais, ouais.
Et alors donc, je veux savoir aussi, parce que après, je vous demanderai une dernière question... vous étiez payé à la pièce ?
On était payé au mois et on avait une prime d'abattage.
C'est ça, chaque bête avait...
Une prime d'abattage et une prime des cuirs.
Et donc,
c'est pour revenir à ce que je vous disais, qu'il devait faire attention quand il retirait les cuirs. Au moins, il faisait deux trous, plus ça rapportait. Et ça se reportait dans leur prime.
Cuirs, il fallait qu'ils soient impeccables pour pouvoir toucher une prime de cuir tous les mois.
Parce que donc,
on était outillés quand même des couteaux électriques à l'époque. Hein.
Parce qu'il n'y a pas une compétition entre les tueurs, en fait, non ?
Bon,
donc, ils arrivaient tous à peu près.
Ah non, c'est pas le tueur qui en faisait le mieux, qui avait le plus de primes. C'était réparti pour tout le monde, groupé. Hein.
C'était groupé, les primes de
Parce qu'à Brest, c'était le tueur avait. Et c'était, plus il tuait, plus il avait pris.
C'était, ah, lui, bah ouais, c'était. Plus on faisait de bons vins, plus les cuillères étaient bons, plus on avait de
cuillères. C'est ça, c'est ça, d'accord.
Oui, mais c'était réparti en tout.
Ah, ouais, mais s'il y avait 27 cuillères, c'était 27 cuillères, il avait été réparti.
C'est ça, voilà. Donc, c'était comme une caisse commune, en fait.
Nous, on a connu ça avant, quand on était indépendants. Là, c'était. Là, c'était. On touchait nos propres primes.
Oui, oui, oui.
Et donc, René, tu as été indépendant? Non. Tu as été indépendant?
Moi, j'ai été indépendant, oui.
Et quelle différence il y a eu au niveau salaire ou au niveau...
On était plus riche indépendant qu'à l'achat.
Ben, c'était évident, voilà. Ouais, alors, il y a une
question... Libre aussi.
Liberté aussi.
Bien, oui, voilà, oui, oui, le choix de ses heures, choix de ses... De
puis pas, c'est vrai que... pas toujours facile non plus la chaîne. Parce que bon, pendant la période des vacances, il faut assumer. On ne fermait pas.
C'est ça.
Donc, on prenait des intérims, mais on n'avait pas le droit de prendre d'intérim en dessous de 18 ans.
Ah, bah, bon, ouais. Et combien de bêtes par moyenne par semaine?
On faisait entre 18 et 22 bêtes à l'heure. Dans les chaînes des bovins. Les chevaux, pareil. Les veaux, un peu plus. Par contre, dans les ports, on tournait entre 100 et 110 à l'heure.
C'est ça qui est le plus...
On avait quand même des chaînes modernes.
Hein. Ben, je doute. Voilà. Et maintenant, la dernière question, qui est toujours la même, je le pose à qui que ce soit. Quel est le souvenir le plus intense, bon ou mauvais, qu'il y aurait d'abord chez Madame Orbiard? Il y a un des souvenirs qui est marqué.
Qui est marqué dans quel sens?
Un souvenir intense, soit de... une réflexion de monsieur Robillard ou d'une quelque chose qui avait surpris sur ce métier-là.
Oh, on ne parlait pas beaucoup de ça, mais quand il y avait un désaccord, le souvenir le plus intense, je crois, c'est quand il y a eu un de ses ouvriers qui s'est fait mettre dehors et qui a plaidé sa cause et puis qu'il a manqué de recevoir une lettre. De ne plus faire ça, c'est quand ma voisine, c'était sa tante, comment que c'était,
Jean Castelin, vous parlez?
Ben oui, mais ça l'a marqué, parce qu'il connaissait bien la famille, les enfants, il était fort familial, mon mari, et le plus mauvais souvenir, c'est quand il avait été fort malade, il avait fait une hépatite virale assez grave, il avait manqué de mourir. Et après, il y avait la chaudière qui ne marchait plus. Et il devait se lever à 3h du matin pour aller... Et un jour, elle a manqué d'exploser et qui était là. C'est son plus mauvais souvenir. Et quand il est tombé malade, qui a arrêté et puis qui est mort, la ville, elle a changé la chaudière. Et quelques mois après, vous fermiez.
C'est vrai qu'on avait dit, on avait décidé d'aller avec Francis parce qu'on avait une très bonne entente avec Francis. Nous deux, on était bon ensemble. On avait décidé qu'il n'allait plus allumer la chaudière tout seul. C'était dangereux. Et il y avait une fois, un jour, il a fallu avoir une explosion. Donc on avait décidé d'allumer la chaudière, qu'il fallait quelqu'un en face de présent. Parce qu'il y a aussi une époque où, depuis la chaîne, on assumait des bêtes d'accident. Il y avait un gars de permanence toute la semaine. Donc en pleine nuit, il pouvait être appelé pour faire une bête d'accident. Moi, j'ai été appelé souvent. Il y avait un abattoir séparément aussi pour ça. N'importe quel gars qui était permanent la semaine, il assumait les bêtes d'accident.
Et quand il voulait pas assumer, René, il venait à la maison.
Eh ben oui, les bonnes scènes, moi.
Il y en a eu beaucoup.
Et moi, j'en ai fait beaucoup à la bête des gars parce qu'ils ne voulaient pas assumer. Donc, étant responsable, vous vous débrouillez. Comme le gars ne veut pas assumer, vous y allez.
Ben oui.
Alors, je vais demander à M. René Laurent aussi, son souvenir le plus intense.
Ah bon, moi, c'était le départ de la chaîne. Quand M. Cadet a décidé de me nommer contremaître, à l'époque, j'étais un des plus jeunes des tueurs. Et bon, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres anonymes.
C'est vrai?
Francis, il le savait.
Oui, mais Francis n'était pas bavard.
Non, il était pas bavard. Donc, c'était rude au départ.
C'est ça, d'accord. Ouais. Mais c'était une fierté quand même.
Comment?
Une fierté d'être nommé.
Ah, tout à fait, oui. C'est ça. Tout à fait.
Je te remercie.
Je vous en prie.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Oh, c'est rien.